Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jacques et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu.
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Quelle est belle la joie de Pâques, quelle est belle cette fête de Pâques. Après 40 jours d'entraînement du carême, après cette longue retraite au désert où le Seigneur nous a parlé au cœur, nous voilà au matin de Pâques pour fêter sa résurrection, pour fêter sa victoire. Pour être franc, la joie de Pâques est un peu hésitante. Celle des apôtres, d'abord, ne vient pas immédiatement. Elle hésite. La joie est un peu limitée au départ. On a été tellement bouleversés par la mort de Jésus. Pas seulement parce qu'il est mort, mais parce qu'il est mort dans des conditions absolument effroyables. On a de la peine, à vrai dire, on ne peut même pas se représenter ce qu'a été la mort de Jésus. La mort atroce, dans des souffrances indicibles, dans un spectacle insoutenable. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, et qui souffrent d'une façon terrible. Nous vivons aujourd'hui, chez nous, dans notre monde, des spectacles insoutenables, des souffrances indicibles, des injustices invraisemblables, qui sont tout aussi bouleversantes. On avait cru que Jésus serait le Messie triomphant. On avait espéré qu'il rétablirait la justice en Israël, qu'il chasserait les Romains. On avait cru que le Messie enfin nous délivrerait pour de bon de tout ce qui nous entravait. On attendait un Messie temporel. Et il est mort lamentablement sur une croix entre deux brigands. Il est mort en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas seulement qu'on était déçus, c'est qu'on était dépités, on était désorientés. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les souffrances de notre monde, dans les soubresauts de notre pays, nous sommes tentés de réagir comme les apôtres. Nous avions cru que l'Église serait belle, que l'Église serait triomphante. Nous avons cru que l'Église pourrait nous sauver. Mais elle-même a été tellement humiliée, tellement embourbée dans des souffrances et des crimes dont elle a du mal à rendre compte. Est-ce que vraiment le matin de Pâques, on peut se réjouir? Est-ce que toutes ces fleurs, toute cette liturgie un peu ample est vraiment justifiée? Est-ce que dès demain, on ne va pas retourner aux affaires et peut-être même dès ce soir regarder des débats télévisés pour préparer les élections de dimanche prochain? Est-ce que cette fête de Pâques n'est pas un peu hors du temps, hors du monde? Si c'est le cas, alors il faut changer de religion, il faut aller se coucher, il faut faire autre chose, mais ça ne sert à rien. Est-ce que tout ce que nous faisons n'est que du cinéma? Après tout, on peut se poser la question. Et peut-être même qu'il faut se la poser. Pourquoi est-ce que c'est si important que Jésus soit ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Nous avons les uns et les autres pleuré des défunts dans nos familles cette année. Et nous avons espéré en la résurrection. Mais la maladie a semblé plus forte. Les drames nous ont épouvantés. Mais s'il est vraiment ressuscité, alors nos larmes ne sont pas les mêmes larmes que celles des païens. Nos larmes sont des larmes d'espérance. La mort est vaincue. Est-ce que vraiment la mort est vaincue? Voilà une question terrible, mais qui est absolument essentielle. Est-ce que réellement ça vaut la peine d'être chrétien? Est-ce que réellement nos larmes à nous sont différentes de celles des païens? Ou est-ce que finalement c'est un jeu? Le drame de la mort qui nous frappe, mais aussi le drame de nos péchés. S'il est vraiment ressuscité, nos péchés sont pardonnés. S'il est vraiment ressuscité, il a pris sur lui notre culpabilité. Nous ne sommes plus coupables. Il nous a aimés jusque-là. Saint Paul en sera bouleversé jusqu'à la fin de ses jours. Mon Seigneur et mon Dieu, il m'a aimé jusqu'à porter sur lui les conséquences de mon péché. Il a payé la dette qui était impossible à payer. Oui, vraiment, la vie a affronté la mort et la vie l'a emportée. Le pardon est gagné. Le pardon m'a été donné. Je me rappellerai toute ma vie ce catéchumène à qui je demandais comment il était arrivé à Jésus et qui m'avait répondu, bouleversé, « Je cherchais quelqu'un qui puisse me pardonner mes péchés. » Est-ce qu'il a réellement trouvé celui qui lui pardonne ses péchés ou est-ce qu'il a trouvé un mirage? Est-ce qu'il a trouvé un symbole? Mais les symboles ne sauvent pas. Jésus seul peut sauver. Il y a la mort, il y a les péchés, mais il y a aussi l'injustice. L'injustice qui semble régner dans le monde. Si vraiment Jésus est ressuscité, alors il existe une justice et il existe un jugement. Tous nos actes recevront leur salaire. Nous n'avons plus de culpabilité pour nos péchés si nous croyons. Si nous croyons en sa miséricorde, mais on ne fait pas le mal impunément. Lui en est mort. Et dans le monde aujourd'hui, beaucoup d'innocents souffrent et meurent. Beaucoup d'innocents sont condamnés par les injustices des hommes, des injustices même au-dedans de l'Église. Oui, dans sa miséricorde, on accueille le pardon, mais à condition de croire, à condition de ne pas se moquer de lui. À côté de Jésus crucifié, il y a deux brigands, l'un qui refuse de croire, qui refuse de s'ouvrir, il meurt dans son désespoir. Sa destinée finale, nous ne la connaissons pas, elle appartient à Dieu. Et puis il y a le bon larron qui s'ouvre à la miséricorde et qui reçoit la grâce de la paix, la grâce de la vie au moment même où il meurt. Nous ne pouvons pas juger nous-mêmes. Même les criminels, la justice des hommes n'en vient pas à bout. Nous ne pouvons pas juger nous-mêmes, mais nous pouvons nous en remettre au Seigneur qui est juge et maître de l'histoire. Oui, il existe un jugement. Si le Christ est ressuscité, ce jugement rendra justice aux innocents, rendra justice à ceux qui ont été persécutés. Nous ne pouvons pas juger nous-mêmes, mais nous pouvons réellement nous en remettre à celui qui juge avec justice. Il est vraiment ressuscité. S'il ne l'est pas, tout s'effondre. Est-ce que, pardonnez-moi de répéter cette question, est-ce que sa résurrection est un joli symbole? Ou bien est-ce que sa résurrection est réelle? Est-ce que les consolations que nous espérons sont des fausses consolations, vaguement affectives, sentimentales? Il faudrait oublier les malheurs. Ou est-ce que la consolation est réelle? S'il n'est pas ressuscité, nos péchés ne sont pas pardonnés, nous restons coupables. Il n'y a pas de justice et la loi du plus fort est inéluctable. La guerre est sans fin, le pouvoir est tout. Sur quoi est-ce que repose sa résurrection pour nous? Premièrement, sur un tombeau vide. La pierre a été roulée, le tombeau est vide. Alors on réagit comme Marie-Madeleine, on a volé le corps de Jésus. Mais si on avait volé le corps de Jésus, on ne l'aurait pas sorti du linceul. Pourquoi sortir le corps du linceul? Quand on amène un cadavre, on le laisse dans son linge. Or, quand les apôtres pénètrent dans le tombeau, leur témoignage est véridique, dit saint Jean. Ils voient les linges à leur place, mais aplatis, comme un sac vide, inutile. Les linges sont exactement comme ils étaient quand ils enveloppaient le corps de Jésus, mais le corps n'est plus là, le linge s'est aplati, et le linceul de Turin en donne le témoignage inéluctable, le témoignage véridique, authentique. Ce linge est comme une preuve de ce que le corps de Jésus n'obéit plus aux lois de la physique. Il a disparu de notre monde visible. Il se rendra visible pendant 40 jours aux apôtres, mais qui auront du mal à le reconnaître parce qu'il est le même et en même temps le tout autre. Il est le même qui est vivant et en même temps il est ressuscité et son corps ressuscité n'est plus dans les lois de la nature ordinaire. Quand les femmes racontent cela aux apôtres, on prend leurs propos pour délirants. On prétend qu'elles radotent comme des femmes. Non, leur témoignage est authentique, leur témoignage est véridique et les apôtres finalement accepteront ce témoignage quand eux-mêmes auront été touchés par l'Esprit Saint, quand eux-mêmes auront reçu l'Esprit Saint. Alors ils se rappelleront comme les femmes ce que Jésus leur avait dit. Le témoignage des Écritures est vérifié. Toute la Bible parlait de Jésus. Toute la Bible, toute l'Ancienne Alliance, toute l'Écriture parlait de la résurrection et de la victoire du Christ. Mais la foi est un don de Dieu. La foi vient de l'Esprit Saint. De notre part, il faut un étonnement, comme nous disions cette nuit, un étonnement, une mémoire des Écritures. Alors l'Esprit Saint peut donner l'étincelle de la foi et tout s'éclaire. Ça n'est pas qu'il faut comprendre pour croire, c'est qu'il faut croire pour comprendre. Si je crois au Christ, si j'accepte ce don de Dieu, si j'accueille ce don de Dieu, si je suis assez humble pour me laisser envahir par la foi, alors tout s'éclaire d'un jour nouveau et je regarde le monde autrement. Je regarde le monde avec un horizon qui n'est plus dans la tombe, qui n'est plus à l'échelle de la mort, mais je regarde le monde à l'échelle de l'éternité. Ce matin de Pâques, affermissons notre foi. Appuyons-nous sur la foi de l'Église, appuyons-nous sur la foi les uns des autres, puisque aussi bien nous avons rénové tous nos promesses de baptême dans la nuit de Pâques. Affermissons notre foi et annonçons, même si on nous prend pour des fous, même si on nous prend pour des... Oh, alors, il ne faut pas que notre joie soit insolente. Il ne faut pas que notre joie soit une insulte pour les souffrances du monde. Que notre joie soit encore douloureuse parce qu'elle sait compatir au malheur du temps. Les catéchumènes au milieu de nous sont là pour témoigner. de ceux qui se laissent toucher par la foi et qui annoncent simplement, humblement, sans vouloir prouver, sans vouloir convaincre, mais simplement en disant ce qu'ils ont vu, en disant ce qu'ils ont entendu. On ne peut pas croire si on n'a pas entendu parler de lui. C'est notre mission. C'est notre mission de chrétien. Si nous affermissons notre foi, si nous annonçons, c'est pour que le monde entende ce témoignage. Qu'il entende notre parole, qu'il voit nos actes, que nous soyons des témoins maintenant convaincus pour être convaincants. Vivons comme des ressuscités. Et comme disait saint Paul dans la deuxième lecture, cherchons maintenant les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. C'est-à-dire ne fuyons pas le monde. Le monde, Dieu nous y a envoyés, comme il a envoyé son Fils. Ne fuyons pas le monde, mais regardons-le avec les yeux de la foi. Alors nous y verrons déjà les traces du ressuscité et la marque de sa victoire. Demandons à la Vierge Marie, Mère de tous les apôtres, Reine des apôtres, de nous donner cette force de la foi qui nous fait tenir debout au pied de la croix, parce que, voyant l'échec total, nous croyons déjà à la victoire totale. Amen.